Le journal est présenté par Thomas Schoner.
Bonjour à tous. La justice irakienne condamne une ressortissante allemande partie faire le djihad dans les rangs du groupe État islamique, une condamnation à mort. Les djihadistes français capturés connaîtront-ils le même sort ? David Ravier nous rappellera la position française sur cette question. L'État a-t-il abandonné les prisons ? Les surveillants pénitentiaires rejettent le projet d'accord négocié avec le gouvernement. Le mouvement se poursuit avec aujourd'hui de nouveaux blocages. La Turquie veut, dit-elle, créer une zone de sécurité dans le secteur d'Afrin. L'armée turque, ça y est rentrée en territoire syrien. Ankara veut mater les milices kurdes et à Moscou, on est obligé de faire avec. Nous irons à la fin de ce journal au Liberia avec le paradoxe George Weah. Le président élu veut tourner la page de la guerre civile, mais sa vice-présidente n'est autre que la femme de Charles Taylor, condamnée pour crimes contre l'humanité. La Cour pénale centrale de Bagdad, c'est une première, vient donc de condamner à mort une ressortissante allemande. Une femme qui a reconnu, selon la Cour, avoir quitté l'Allemagne pour l'Irak avec ses deux filles, ses enfants, qui ont épousé des membres du groupe État islamique. Une condamnation à mort qui intervient en plein débat en France sur les revenants, les djihadistes français partis en Syrie et en Irak et qui aimeraient être jugés en France. Bonjour David Ravier.
Bonjour Thomas.
Des Français vont-ils être condamnés à mort en Syrie ou en Irak, ceux en tout cas qui ont été capturés sur place ?
C'est une question délicate pour le moment puisque d'après la ministre des Armées Florence Parly, il resterait entre 500 et 600 Français sur place. Une bonne partie d'entre eux seraient des combattants bien décidés à aller jusqu'au bout sans se laisser capturer vivants. Mais la situation se complique pour ceux qui seraient arrêtés par les forces kurdes ou irakiennes. L'Irak est un État souverain avec ses propres institutions judiciaires et des cours pénales habilitées à juger les djihadistes. On vient de le voir, l'Irak peut choisir d'exécuter des peines de mort sur des ressortissants étrangers. Et si cela venait à se produire pour un Français, malgré l'opposition de la France au recours à la peine de mort, Florence Parly réaffirmait cette semaine dans Libération que les jugements rendus par les tribunaux locaux étaient légitimes puisque les crimes ont été commis sur leur territoire. Par principe, le réseau diplomatique français apportera son soutien à ses ressortissants pour trouver une alternative, mais dans les faits, elle ne pourra pas faire beaucoup plus. La seule incertitude qui reste pour l'instant, c'est le sort réservé aux femmes avec des enfants, partis rejoindre l'État islamique et qui souhaitent être extradés pour être jugés en France. Au mois de novembre, le président de la République s'était montré prudent sur la question des revenantes. Il avait notamment appelé à juger la situation de ces femmes au cas par cas, en fonction du pays dans lequel elles sont jugées et des peines encourues.
David Ravier, merci beaucoup. Donnons ensemble un nouvel élan à l'Europe. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont publié ce matin une vidéo sur les réseaux sociaux. Les deux chefs d'État veulent oser le renouveau, une déclaration d'intention, alors que le traité sur la coopération franco-allemande aura 55 ans demain. Et alors qu'Angela Merkel n'est toujours pas fixée sur son sort. Les sociodémocrates allemands doivent se prononcer aujourd'hui sur le projet de coalition avec les conservateurs. Leur congrès s'est ouvert il y a un peu plus d'une heure. Les agents pénitentiaires des prisons de Borgo en Haute-Corse et de Bordeaux-Gradignan n'ont pas pris leur service ce matin. Le mouvement des surveillants se poursuit alors que les syndicats ont rejeté hier soir le projet d'accord négocié avec le gouvernement. Le gouvernement pour qui les prisons ne sont pas une priorité, c'est ce que pense Véronique Vasseur, qu'a joint Claudia Bertram. Elle a été médecin-chef à la maison d'arrêt de la santé à Paris durant 8 ans et elle avait fait de son expérience à l'époque un livre.
Mon livre il date de 17 ans et les choses non seulement ne sont pas améliorées, mais elles se sont empirées. Parce que la population qui se trouve à l'intérieur est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur, c'est de plus en plus violent. Je pense qu'il y a des failles dans le système énorme, des failles de sécurité. Il y a eu des mesures d'urgence il y a 17 ans, puisqu'après mon bouquin, il y a eu deux commissions d'enquête, il y a eu des propositions des sénateurs et des députés, tous ensemble, et il y a très peu qui ont été reprises. C'est pas une priorité politique. C'est évident. Il y a un espèce de laxisme ambiant. Les politiques, ils réagissent quand il y a un bouquin comme ça, des grèves, ils réagissent. Mais quoi ? Ils réagissent, ils font des commissions d'enquête et puis ils ont fait des nouvelles prisons. Mais il faudrait repenser le système. Et pour ça, il faut des moyens. Et il y a eu quelques avancées. Il y a eu une loi pénitentiaire. Il y a eu des prisons, la santé, elle a été mise par terre et on en reconstruit une neuve. Bon, faire sortir des prisons de terre, c'est une chose, mais ce sera pas la solution. La solution, c'est des alternatives, c'est de pas mélanger des gens dangereux avec des gens qui ont fait des petits trucs. Ça se fait un petit peu, mais c'est pas suffisant.
Les syndicats de surveillants appellent à un blocage total des prisons demain matin. Le Premier ministre turc annonce que les troupes d'Ankara sont entrées en Syrie. C'est l'enclave d'Afrin dans le nord-ouest qui concentre les foudres de la Turquie. La région est tenue par des milices kurdes qui ont combattu Daesh, des milices terroristes selon le président Erdogan. 10 personnes ont été tuées hier dans les bombardements et c'est Moscou qui a réagi le premier. La Russie appelle à la retenue. Les précisions sur place de notre correspondant Claude Brouillot.
L'offensive armée turque sape encore un peu plus les initiatives russes de règlement politique du conflit, à moins d'une semaine de la déjà très chancelante conférence pour le dialogue national syrien qui doit se tenir à Sotchi, privée des opposants à Bachar al-Assad. Car si le Kremlin, une fois son contingent réduit, croyait réellement proche la fin des opérations militaires en Syrie, son instable partenaire turc, lui, reprend les opérations. La réaction de la diplomatie russe hier, appelant simplement à la mesure, après avoir retiré ses troupes de la zone, signifie qu'ici à Moscou, il n'y a pas eu d'effet de surprise. Depuis des semaines déjà, à chaque rencontre, Recep Erdogan qualifie les milices kurdes de terroristes, sans que Vladimir Poutine ne parvienne réellement à le contenir. Pour la forme, l'ambassadeur russe à Ankara sera reçu au ministère turc des Affaires étrangères, mais pas plus, pas moins que ses homologues américains et iranien. Sergueï Lavrov, hier, par téléphone, a échangé avec Rex Tillerson. Le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir par communiqué que la Russie continuerait à œuvrer aux côtés de Bachar al-Assad pour préserver l'intégrité territoriale de la Syrie. Sous-entendu, le Kremlin pèsera de tout son poids de grande puissance pour conserver ses acquis stratégiques et diplomatiques dans la région.
Et Jean-Yves Le Drian, à l'instant, demande une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur les opérations turques en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères réclame un cessez-le-feu. Les talibans revendiquent l'attaque de l'hôtel intercontinental de Kaboul. Les assaillants ont commencé hier soir par tirer à vue. La prise d'otage ensuite a duré toute la nuit dans cet hôtel chic de la capitale afghane. Le bilan toujours provisoire fait état de 6 morts. À Kinshasa, la police l'a violemment dispersé les marches interdites. De ce matin, les catholiques demandent toujours au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat. Les fidèles ont manifesté après l'office et ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. 9 personnes ont été blessées. Il y a au moins un mort selon les Nations Unies. Je m'efforce d'être excellent et je peux réussir. C'est ce qu'a lancé hier Georges Weah à ceux qui l'accusent de n'être qu'une légende du football. Le président élu du Liberia va prêter serment demain, mais combien de temps le spectre de la guerre civile mettra-t-il pour se dissiper? L'ancien président Charles Taylor a été condamné à 50 ans de prison pour crime contre l'humanité. Son ancienne épouse sera demain aux côtés de Georges Weah en tant que vice-présidente à Monrovia. Le reportage de Cécilia Arbona.
Leurs visages se frôlent sur les affiches célébrant leur victoire. Mais que fait George Weah, l'enfant du ghetto, surdoué du football, Ballon d'Or 95, ambassadeur de la paix, aux côtés de Jewel Taylor, ex-First Lady aux heures les plus sombres du Liberia, entre 1997 et 2003, alors épouse de Charles Taylor, condamnée à 50 ans de prison pour crime contre l'humanité pendant la guerre civile. C'est pourtant ce duo-là qui a séduit les Libériens.
Oui, je suis convaincue que c'est un nouveau départ. J'adore ce ticket. Elle a l'expérience, elle a été première dame. Elle est sénatrice et a le parti patriotique derrière elle. Lui est notre leader maintenant. Il est le plus talentueux des Africains. Il a une popularité énorme. Les gens l'aiment, on l'aime tant.
So much. Ironie de l'histoire, le 25e président du Liberia, George Weah, découvrira le palais présidentiel alors que sa vice-présidente l'a déjà occupé par le passé.
Midi et 38 minutes sur France Culture, c'est l'heure de retrouver comme tous les dimanches la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les disparitions sans laisser de traces, c'est fini. On peut émettre des critiques, on se sent plus libre. Ce sont des paroles de Gambien. Un an jour pour jour après le départ du président Yahya Jammeh, l'homme a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans. Il a dû céder le pouvoir au président démocratiquement élu Adam Barrow sous la pression de la population et de l'Union africaine. La Belgique s'est engagée mercredi à verser en 3 ans 19 millions d'euros à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Une annonce faite après la décision de Washington de geler partiellement sa contribution. 31 morts lundi après un double attentat suicide au centre de Bagdad. Cette recrudescence de la violence intervient plus d'un mois après l'annonce officielle par l'Irak de la fin de la guerre contre le I, mais aussi dans un contexte préélectoral tendu. Les législatives du 12 mai ont fait renaître la rivalité politique entre l'actuel Premier ministre Haïdar El Abadi et son prédécesseur Nouri El Maliki. Haïdar El Abadi, qui espère engranger les bénéfices de la victoire contre le I et qui appelle à lutter contre des cellules dormantes djihadistes. Qui sont-elles? Question posée au chercheur Hasni Abidi.
Est-ce qu'il s'agit de cellules dormantes? Il faut plutôt parler des éléments connus par certains services de renseignement irakiens, de par leur lien très très important mais avéré avec l'organisation d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Et on sait très bien aussi que ces éléments n'ont jamais quitté le territoire et que leur capacité de nuire est toujours intacte.
Oui, alors un des chefs de la force paramilitaire qui a aidé l'armée irakienne à déloger le I de la frontière irako-syrienne, affirme que Nimrod, situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de Mossoul, peut tomber à tout moment. Il y décrit d'ailleurs une situation sécuritaire très fragile.
L'organisation d'État islamique ou d'autres mouvements sont toujours en mesure de reprendre, pas des grandes villes, mais certaines localités dans plusieurs zones, par exemple la frontière entre la Syrie et l'Irak, la zone de ce qu'on appelle les trois frontières, il y a aussi pas loin de la Jordanie, il y a des zones qui constituent le ventre mou de la sécurité en Irak. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un contexte surprenant et tendu d'ailleurs entre l'actuel Premier ministre Haïdar El-Abadi, fort aujourd'hui d'une certaine légitimité internationale après la victoire de la bataille de Mossoul, et son adversaire qui reste très important, Nouri El-Maliki.
Nouri El-Maliki qui est l'ancien Premier ministre irakien.
Évidemment, les deux veulent absolument avoir le soutien des forces de mobilisation populaire. Et ce contexte électoral, évidemment, mine un petit peu les efforts du gouvernement irakien en direction des villes désertées par l'État islamique. Rien que le non-retour de milliers de civils irakiens dans leurs villes et dans leurs petits villages montre qu'en effet, cette politique de reconstruction tarde à venir, ce qui donne la possibilité à des éléments radicaux de profiter de ce vide.
Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. En Italie, un mois et demi avant les élections législative du 4 mars, les partis politiques n'ont plus que quelques jours pour s'organiser. D'ici le 29 janvier, ils sont invités à déposer leur statut, leur programme et leur liste électorale au ministère de l'Intérieur. Premier parti dans les intentions de vote, le mouvement 5 étoiles a reçu 15 000 candidatures à évaluer. La gauche, au pouvoir, part en ordre dispersé. Quant à la droite, elle compte tout faire pour l'emporter. Et Marie Duhamel, le parti de Silvio Berlusconi, a scellé jeudi soir une alliance avec l'extrême droite italienne.
Par trois fois président du Conseil, Silvio Berlusconi rêve encore de victoire. Une condamnation pour fraude fiscale l'interdit d'occuper tout mandat public jusque l'an prochain, mais il sera sur le terrain, sinon comme capitaine, au moins comme entraîneur, dit-il, et le voilà qui pose sur la photo aux côtés des deux leaders de la droite souverainiste et xénophobe. Ensemble, nous gagnerons. Alors que la gauche divisée se concentre sur sa survie, il propose une nouvelle alliance de gouvernement. Rassembler, c'est la force de Silvio Berlusconi. Il lui faudra cependant renoncer à son rôle de leader naturel de la droite. Il lui sera difficile d'imposer son candidat pour diriger le pays. Peu influente, la dirigeante de Fratelli d'Italia ne lui fera pas d'ombre. Le cavaliere dispose, c'est vrai, d'une base électorale fidèle. Elle s'établit autour de 15% des suffrages, mais ce n'est qu'un petit point d'avance sur l'extrême droite toujours plus populaire sous la direction de Matteo Salvini. Inscrit à la Ligue du Nord depuis 1990, très ambitieux, le chef du parti anti-immigration parle déjà de l'action de son futur gouvernement, ne mentionnant nulle part sa nouvelle alliance. Il s'y disait opposé il y a 10 jours encore. Silvio Berlusconi lui aurait concédé de revenir sur la réforme des retraites. Matteo Salvini, lui, ne dit mot des 1000 promesses fiscales de son allié. S'ils peuvent s'accorder sur les politiques internes, s'ils veulent bien sûr battre le mouvement 5 étoiles aux élections, une question de taille les oppose. L'avenir du pays au sein de la zone euro et de l'Union européenne.
550 000 Vénézuéliens vivent en Colombie. Les autorités colombiennes expliquent que ce flux a augmenté de 62% au deuxième semestre 2017. Les Vénézuéliens les plus pauvres ne s'éloignent pas des villes frontalières. Les ingénieurs et les cadres ont trouvé ou tentent de trouver du travail à Bogota, avec une frontière poreuse de 2200 km. Un grand nombre de ces expatriés a rejoint la Colombie sans visa. Certains y ont transité avant de gagner un autre pays. D'autres sont rentrés au Venezuela. C'est départs sont dus à une situation économique catastrophique, doublée d'une grave crise politique. À dimanche prochain.
Nabila Hamel, merci beaucoup. La face cachée du globe, c'est aussi sur franceculture.fr. Après les Jeux Olympiques de 2024, la France n'accueillera pas l'exposition universelle de 2025. Édouard Philippe annonce que Paris va retirer sa candidature officiellement pour raisons financières. La météo pour cet après-midi, du soleil autour de la Méditerranée, des nuages dans le Grand Est, de la pluie partout ailleurs. Et toujours ces vigilances orange en raison des pluies et du risque d'inondation. Cela va du Doubs à l'Isère avec également le Cantal. Il faut ajouter un risque d'avalanche dans les Deux-Savoies. Attention au risque de crue en Haute-Marne, dans les Pyrénées-Atlantiques, en Dordogne et en Corrèze. Une heure moins le quart, ce journal a été préparé avec Martin Descloseaux à la technique. Aujourd'hui, ce midi, Alex Dang.